les podcasts de Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale. En partenariat avec le groupe VIV.
Thierry Borsa.
Bonjour, nous sommes le 18 décembre. Bienvenue dans ce nouveau podcast sur la vie quotidienne durant la crise sanitaire que nous réalisons avec la rédaction de Pourquoi Docteur et avec le soutien de notre partenaire, le groupe VIV. Les Français vont mal. Ils jugent que cette année 2020, elle aura été horrible et pour beaucoup d'entre eux, cela a des conséquences très concrètes sur leur santé mentale. Anxiété, isolement, perte des habitudes et des repères traditionnels dans la vie de tous les jours, difficultés professionnelles à cause d'une situation économique dégradée, lassitude des contraintes liées aux périodes de confinement et maintenant des fêtes de Noël un peu gâchées par le rebond de l'épidémie, un couvre-feu qui interdira le classique défoulement du 31 décembre. Il y a en effet de quoi perdre le moral. Et c'est malheureusement ce que constatent les professionnels de santé, dont certains tirent même la sonnette d'alarme en se demandant si les troubles psychologiques et mentaux nés de la crise du coronavirus ne vont pas être le prochain sujet d'une crise sanitaire à venir avec une vague de dépression et autres manifestations psychiques qui devront être prises en charge. Alors, quelle est vraiment l'ampleur de ce phénomène? Comment se traduit-il dès aujourd'hui et comment la situation pourrait évoluer? Eh bien, autant de questions que l'on se pose et sur lesquelles un médecin psychiatre nous a livré son regard et son analyse. Bonjour Alexandra Detto, vous êtes médecin psychiatre, chef de service du centre de santé mentale MGEN de Lyon, une structure de notre partenaire le groupe VIV, et vous êtes à ce titre en première ligne pour observer comment cette crise de la Covid-19 perturbe l'équilibre psychologique de beaucoup de personnes, quel que soit leur âge, leur activité ou leur catégorie sociale. Est-ce que vous confirmez, plus de 9 mois après le début de l'épidémie en France, cette dégradation de la santé mentale des Français ?
Ce qui me paraissait important, c'est peut-être de repartir de la définition de la santé mentale selon l'OMS, parce que c'est une définition qui est quand même beaucoup plus large que simplement, ça ne se résume pas du tout à la question de la pathologie psychiatrique, puisque l'OMS le définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on voit que c'est une notion qui est très large, qui va bien au-delà de la question de la pathologie psychiatrique et que, bah, effectivement, bien sûr, hein, dans le contexte actuel, la santé mentale des Français, elle s'est considérablement dégradée. Alors, depuis le premier confinement, ça se poursuit actuellement et probablement ça se poursuivra après, même si pour le moment, c'est difficile de se projeter précisément.
Alors, plus précisément, quelles sont les raisons de cette dégradation de la santé mentale des Français et puis qui sont les personnes, les catégories les plus touchées ?
Cette dégradation, elle est multifactorielle. Hein. On vit depuis le mois de mars un stress très important, avec quelque chose qui a été très, très soudain, très brutal, qui nous a conduit à la fois à une perte de la liberté de circulation, un isolement social imposé, un vécu de ce que nous on appelle de déréalisation, hein, qui est proche de ce qu'on peut vivre dans certaines pathologies psychiatriques, avec ces villes et ces rues complètement désertes, sans voiture, une sorte d'ambiance presque post-apocalyptique, le désœuvrement bien sûr, et puis la peur de tomber malade, avec une maladie inconnue, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas traiter, et avec une réelle peur de la mort pour soi ou pour ses proches. Et puis à ça s'ajoutent les problématiques économiques, hein, qu'on connaît bien, économiques, sociales, les difficultés d'accès aux soins pour les pathologies somatiques. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont été très angoissés de ne plus pouvoir avoir accès facilement à leur médecin spécialiste, à leur généraliste, avec des interventions chirurgicales qui ont été déprogrammées, sans date de report. Enfin, voilà. Donc ça a été aussi des choses très angoissantes. Donc ça, c'est les facteurs qui ont concerné la population générale. Et puis après, effectivement, plus spécifiquement, on a noté une dégradation particulière chez le personnel soignant, bien sûr. Donc particulièrement les personnels confrontés aux prises en charge de patients Covid, avec une charge de travail massive. Là encore, une maladie qu'on ne connaissait pas, une maladie mortelle, et quand même, il faut le rappeler, au tout départ, sans les équipements nécessaires. Donc il y a quand même beaucoup de soignants qui ont fait face sans équipement, ou alors, j'en discutais encore il y a quelques jours, avec des sacs poubelles, en guise de blouse. Donc ça a été des choses vraiment très 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 angoissantes pour les soignants, avec la crainte à la fois de tomber malade eux et de contaminer leur entourage. Il y avait beaucoup de soignants qui étaient très angoissés, avec tout un rituel en rentrant chez eux de désinfection, etc. Donc ça a été des choses vraiment vraiment très angoissantes. Et puis on trouve aussi des troubles chez les personnes qui ont été atteintes de la Covid. Il y a une étude qui montre qu'à peu près 20% des personnes qui ont été atteintes ont développé des troubles psychiques dans les semaines suivantes. Également une dégradation de la santé mentale des personnes dont un proche a été atteint. Et puis bon, une aggravation aussi chez les personnes qui par ailleurs étaient déjà atteintes de troubles psychiques.
Ça se traduit comment tout ça dans les troubles par exemple qui sont évoqués durant vos consultations ?
Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, et puis dans ce qu'on constate nous, alors les troubles anxieux, ça c'est certain, il y a une nette augmentation des troubles anxieux, des troubles dépressifs également, qui ont considérablement augmenté. Ce qu'on commence à voir aussi, ce sont ce qu'on appelle les syndromes de stress post-traumatique. Alors, pour les personnes atteintes, notamment les personnes qui ont fait des séjours en réanimation, mais les autres également, c'est-à-dire des personnes qui ont quand même été confrontées à la crainte d'une mort imminente, et des personnes qui en plus ont été isolées, qui se retrouvaient dans des situations où elles ne pouvaient pas voir leur famille. Des situations où des personnes se retrouvaient dans des services de réanimation un peu improvisés, dans des blocs opératoires qui étaient où les personnes se retrouvaient très nombreuses, et où certaines personnes non intubées et conscientes assistaient à ce qui se passait à côté d'elles avec des personnes intubées, très malades, et parfois malheureusement allant jusqu'au décès. Et puis on voit également des syndromes post-traumatiques chez les soignants, des syndromes post-traumatiques par procuration chez les soignants qui ont vécu ces scènes très difficiles.
Et ça a quelles conséquences pour toutes ces personnes ?
Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est une augmentation des conduites addictives. Alors alcool, évidemment, cannabis, addiction aux écrans, alors soit sous forme d'une aggravation de quelque chose qui était déjà là, soit une apparition de conduite addictive. Il y a des études qui ont montré qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues dépendantes aux écrans. C'est lié à l'isolement, au stress, à l'angoisse. Et puis les conduites addictives aux écrans, c'est vrai que les écrans sont devenus à un moment l'unique mode d'entrer en relation avec les autres, pour certains. Donc voilà. Et tout ça aussi, cet isolement-là et puis cette augmentation des conduites addictives a conduit à l'augmentation aussi des violences conjugales, qu'on a aussi beaucoup vu. Il y a une nette augmentation des psychotropes, ça on le voit également, hypnotiques notamment, et puis anxiolytiques. En revanche, on n'a pas observé pour le moment d'augmentation des taux de suicide, qui reste plutôt assez stable, ce qui est quand même plutôt assez rassurant.
Est-ce qu'on peut craindre que tous ces troubles, en fait, ils durent une fois même que la crise sanitaire sera passée ?
C'est difficile à dire pour le moment. En tout cas, il y aura des conséquences dans l'avenir, ça c'est certain. Il y a une étude qui a été menée à Lyon par le professeur Franck, qui lui a lancé une étude dès la première semaine de confinement, en fait, en mars. Il a lancé une étude via Internet dans la population en général. Alors, il a recueilli beaucoup, beaucoup de réponses. Ça a beaucoup intéressé les personnes. C'est un questionnaire qui a beaucoup diffusé. Il a eu 30 000 réponses. Il n'a pu en analyser qu'un peu plus de 11 000, ce qui est déjà beaucoup. Mais ça permettait aussi de voir un petit peu quelle population, s'il y avait des populations qui étaient plus touchées que d'autres. Et ce qu'il retrouvait, lui, dans son étude, c'est qu'une des populations les plus en difficulté, c'est la population des jeunes et des étudiants, notamment. Également les agriculteurs, beaucoup. Et que finalement, ceux qui ont été moins impactés, ce seraient les personnes âgées. Alors, est-ce qu'elles ont été finalement plus entourées ou est-ce que malheureusement elles étaient déjà un peu habituées à être plus isolées, Mais en tout cas pour les jeunes et les étudiants, il y a une vraie difficulté dans une période de la vie alors où effectivement le lien social est très important et essentiel, et puis avec une nette augmentation de la précarité. C'est-à-dire que des jeunes qui étaient déjà très en difficulté n'ont plus accès à des petits boulots, etc. Et ça augmente considérablement leurs difficultés.
Dans votre établissement, vous apportez quel type de réponse, quel soutien à ces patients ?
Nous, sur les établissements MGEN, hein, notre attention, ça a été surtout de pouvoir continuer à suivre nos patients, à ne pas perdre de vue nos patients. Moi, je dirige un établissement alors qui propose à la fois des suivis de consultation et puis des soins en hôpital de jour. Voilà, du jour au lendemain, il a fallu un petit peu tout réorganiser pour continuer malgré tout à garder un lien avec nos patients, continuer à les suivre. Donc, sur le premier confinement, on a été contraints forcément de fermer l'hôpital de jour puisqu'on ne pouvait plus accueillir de patients en groupe. Mais en tout cas, on a continué à suivre les patients. Alors, au début, par téléphone, et puis ensuite par des systèmes de téléconsultation. On a malgré tout essayé de maintenir le travail qu'on fait habituellement à l'hôpital de jour, qui est essentiellement un travail groupal, en créant des groupes, alors par visioconférence, par conférence téléphonique. Voilà, ça nous a amené à être un petit peu créatifs. On a donc poursuivi ces suivis de consultation avec un travail de parole qui était vraiment très très important pour les patients. Parfois le recours à une aide médicamenteuse quand c'était nécessaire. On a essayé de développer aussi des alternatives, des groupes de relaxation, des choses comme ça. Ça plutôt bien fonctionné, en tout cas ça nous a permis de ne pas perdre trop de patients de vue, mais les patients assez vite quand même nous ont fait part des limites de tout ce qui était téléconsultation. Alors ils ont trouvé que c'était à la fois très soutenant et en même temps c'est quand même pas la même chose que de pouvoir rencontrer quelqu'un, être attendu, sortir de chez soi, et puis beaucoup de patients pouvaient dire que voilà, ils étaient enfermés dans l'appartement avec leur entourage et la parole n'est pas aussi libre que quand on vient dans un cabinet de consultation. Donc là, sur ce deuxième confinement, on a pu quand même maintenir les hôpitaux de jour ouverts et au niveau des consultations mixées, des téléconsultations, mais malgré tout maintenir des consultations sur place, parce que pour beaucoup de patients, c'est vraiment très très important, c'est vraiment le retour qu'ils ont pu nous faire, c'est vraiment très important de pouvoir se déplacer. Pour certains, c'est la seule sortie, aller voir son médecin, donc pouvoir se rendre sur place et bénéficier de leur suivi.
Et pour les personnes qui souffraient déjà de troubles psychologiques ou de troubles mentaux, on imagine qu'elles sont encore plus fragiles, on voit aussi une dégradation de leur état ?
Ça dépend un petit peu des profils de patients. Globalement, effectivement, les patients vont plus mal. Après, ça dépend un petit peu des pathologies. Alors c'est vrai qu'il y a des patients très anxieux, très phobiques, qui, pour certains, vivaient déjà plutôt isolés. Alors, pour cela, finalement, le confinement a été plutôt facile, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas pas trop difficile. Et certains disaient, mais finalement, actuellement, tout le monde vit comme moi. Donc, je me sens moins culpabilisée. Par contre, ce qui a été difficile, c'est le déconfinement, parce que pour ces patients-là, sortir à nouveau, c'est devenu très, très difficile. Mais en revanche, effectivement, pour la majorité des patients, ça a été très, très difficile de se retrouver très isolé et ne pouvant plus accéder à leurs soins habituels comme prévu. Donc, globalement, il y a eu effectivement davantage d'anxiété, davantage de troubles du sommeil, des aggravations d'état dépressif. Et puis pour certains, effectivement, hein, des décompensations délirantes, des choses qui sont devenues vraiment très, très envahissantes avec des nécessités d'hospitalisation à temps plein.
Alors, tout ça va générer davantage de besoins, on imagine, pour suivre toutes les personnes qui rencontrent des difficultés. On connaît les problèmes que rencontre la psychiatrie en termes de moyens en France. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur la prise en charge de tous ces patients ?
Alors effectivement, on voit déjà qu'il y a une augmentation du nombre de demandes. Donc, y faire face va être assez difficile, dans la mesure où on sait que ce soit dans la psychiatrie publique ou dans la psychiatrie libérale, les délais d'attente sont très importants. La psychiatrie était déjà très saturée. Ça va être effectivement compliqué. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité à la fois de sensibiliser l'ensemble des professionnels de santé au dépistage quand même de ces troubles, parce qu'il y a des troubles qui vont se manifester très clairement. Il y a des patients qui vont aller chez leur médecin généraliste en disant « je suis angoissée, je me sens mal, je suis déprimée ». Mais il y a aussi tout un tas de patients qui probablement soit ne vont pas consulter directement leur médecin généraliste ou vont consulter plein de spécialistes parce qu'ils vont, ils vont se plaindre de difficultés somatiques diverses, de troubles psychosomatiques. Et je pense que ce serait important de sensibiliser les pharmaciens, les infirmières, les kinés, etc. À ce dépistage-là. Alors après, par contre, qui va pouvoir suivre ces patients ? C'est vrai que la psychiatrie était déjà complètement saturée. Alors, il y a des choses qui se mettent un petit peu en place. Il y a des lignes d'écoute, par exemple, pour les étudiants dans certaines régions. Pour les soignants, il y a dans certains lieux de soins des espaces de parole, mais ça reste quand même assez limité, et alors qu'il va y avoir un besoin croissant. Donc je crois qu'il va vraiment falloir réfléchir à des dispositifs. Au niveau des étudiants, il y aura effectivement probablement des demandes croissantes une fois que les universités vont réouvrir. Au niveau de la médecine préventive universitaire, sans moyens supplémentaires, ça va quand même être compliqué. Les psychologues peuvent probablement jouer un rôle dans tout ça, mais les psychologues ne sont pas remboursés, donc ça c'est quand même une vraie difficulté. Est-ce qu'il y a quelque chose à imaginer sur un nombre de consultations remboursées, ou en tout cas voilà, il va vraiment y avoir des questions à se poser, des dispositifs à penser, parce que le système était déjà complètement saturé, ça va être difficile de répondre à toutes ces demandes-là, c'est évident.
Merci, docteur Alexandra Détour, de présenter et de proposer ces solutions possibles. Espérons que vous serez entendu. On voit en tout cas que c'est presque à une mobilisation générale que vous appelez pour prendre en charge et poursuivre la santé mentale des Français, ce qui en dit long, malheureusement, sur la situation actuelle. Il reste à souhaiter que les effets de l'arrivée des vaccins permettent de sortir rapidement de cette crise et que chacun puisse retrouver le moral, la joie de vivre et l'optimisme le plus tôt possible. Nous sommes arrivés au terme de cette série de podcasts sur la vie quotidienne dans la crise sanitaire. Il me reste à vous remercier, vous tous, pour votre fidélité à notre écoute et pour l'intérêt que vous avez porté à tous ces points d'actualité. Restez prudents, restez en forme et à bientôt.